Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jean-Antoine Pageau, Jean-Philippe Marceau et David Brodeur, de passage à Québec, fait qu'on en profite pour enregistrer en personne. Puis aujourd'hui, on continue notre exploration de l'histoire universelle en lien au Québec. Donc j'ai envie de faire Saint-Laurent, pour le fleuve Saint-Laurent évidemment, pour la vallée de Saint-Laurent. Puis David m'a aidé, il a fait beaucoup de recherches, là, beaucoup plus de recherches que moi là-dessus. Donc on va commencer avec l'histoire du Saint-Laurent de Rome. Puis on va décomposer plusieurs éléments symboliques de sa vie, puis comment ça a rapport au Québec puis au fleuve. OK.
Oui, fait que dans le fond, Saint-Laurent, c'est un saint du 3e siècle. Puis c'est important de le comprendre en lien avec les grosses persécutions qui se passaient à cette époque-là. Puis dans le fond, lui était le diacre qui plus tard va être considéré comme étant l'archidiacre du pape de Rome à cette époque-là, qui était Sixte, le pape Sixte. Puis dans le fond, l'histoire qu'on a au niveau des différentes vies de ce saint-là, ça commence là, dans le fond. C'est que le pape Sixte va être amené pour être exécuté, torturé puis exécuté en tant que martyr à cause de ces persécutions-là. Puis sur le chemin, en fait, il rencontre justement son diacre, qui va être Saint-Laurent. Puis son diacre, justement, lui dit, comment tu fais pour quitter le monde, si on veut, sans ton fidèle serviteur, puis tout ça. Puis là, ils ont un échange. Cet échange-là est dans plusieurs vies, puis de différentes manières. Fait tu sais, on a quand même une bonne idée qu'ils ont se sont réellement parlé, réellement eu un échange. Puis grosso modo, la conclusion de ça, c'est que justement, le pape Sixte lui dit, tu vas vivre pire que moi. Puis dans certaines versions, notamment celle d'Ambroise, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit, le pape Sixte dit à Saint-Laurent, il dit, ça va être dans 3 jours que toi, ça va se passer, parce que c'est plus symboliquement ou logique, en tout cas, que ça soit 3 jours après l'évêque que le diacre. Tu sais, qu'il faut que l'évêque fasse quelque chose, puis après ça, le diacre va pouvoir faire quelque chose. Fait que par la suite, Saint-Laurent, il s'en va. Il va guérir des chrétiens, il va aider des gens, notamment une veuve qui s'appelle Kyriaki. Puis il s'en va l'aider, il s'en va soutenir des chrétiens qui se cachent, tout ça. Puis éventuellement, il arrive un événement où est-ce que, dépendamment de la vie, ça va être différent, mais grosso modo, il se fait interpeller par les officiels de l'empereur, ou dans certaines versions, par l'empereur directement, qui lui dit, dans le fond, on a entendu dire qu'il y avait des trésors dans l'Église, que l'Église était riche. Fait que, amène-nous ces trésors-là. Fait que Saint-Laurent lui dit, pas de problème, je vais aller vous chercher ça. Puis là, il s'en va, puis il ramène un paquet de pauvres, de gens qui sont malades, de gens qui sont éclopés, etc., etc., puis il dit, voici les trésors de l'Église. Là, bien entendu, on comprendra que pour l'empereur, ça passe pas le test. Fait qu'immédiatement, il le prend, puis il le met à la torture. Fait qu'il va être torturé de différentes manières pendant plusieurs jours. Puis la torture qui est la plus fameuse, c'est celle du grill. Dans le fond, il va être, selon la version, il va être déposé sur un grill, puis il va être cuit directement, là, comme à chaud dessus. Puis dans la plupart des versions, en fait, je pense toutes les versions, ce qui est drôle, c'est que...
Il y a une blague dans ça.
Oui, exact, c'est ça. C'est qu'il va faire des blagues sur la torture qu'il reçoit. Fait que, mettons, la version la plus complète, c'est qu'il va dire à ceux qui sont en train de le torturer, ce côté-là est totalement cuit, vous devriez me tourner de bord pour faire cuire l'autre côté, puis après ça, vous allez pouvoir me manger. Puis par la suite, en tout cas, il y a d'autres choses, puis éventuellement, il se fait exécuter, puis il va mourir. Puis son corps va être récupéré, puis il va être enterré par un soldat romain qui était un de ses suivants, là, quelqu'un qui l'aidait. Puis celui qui va l'enterrer, justement, il s'appelle Hippolyte. Puis ça va être important tantôt quand on va parler du Hippolyte et Saint-Laurent qui ont une relation dans le fleuve. Puis par la suite, Hippolyte, justement, parce qu'il a décidé de donner la sépulture à Saint-Laurent, bien, il va être aussi exécuté quelques jours après, dans le fond, Saint-Laurent. Fait que c'est grosso modo, c'est ça les éléments là, principaux là, de sa vie. Là.
C'est intéressant parce que, tu sais, c'est un détail, là, mais on a carrément une image de Saint-Laurent à notre paroisse. Ce que c'est notre paroisse, c'est une paroisse catholique. Il y a une grosse sculpture de Saint-Laurent sur le côté droit. Mm-hmm. On le voit avec son grill, tu sais, on le voit qu'il tient son genre de grill. Puis, tu vois, je sais, ça avait marqué quand je suis allé à Rome, tu sais, parce que là, on entendait, il y a une des plus vieilles paroisses de Rome, que c'est l'église de Saint-Laurent. Mm-hmm. Puis, je me souviens de cette histoire-là, ça m'avait tellement marqué, là, tu sais, d'entendre cette histoire. Mais là, ma question à moi, c'est quoi le rapport avec le Québec? Parce que, tu sais, c'est clair, comme tu as dit, on sait qu'on a le fleuve Saint-Laurent, on sait qu'on a le tunnel Hippolyte, genre Louis-Hippolyte Lafontaine.
Exact, exact.
Mais je sais pas, tu sais, je sais pas pourquoi que... Parce que, tu sais, c'est difficile parce qu'au Québec, tout est nommé à propos des saints, là.
Ouais, exact.
Fait que, tu sais, des fois, c'est dur à imaginer qu'il y a des raisons pour les différents trucs, mais j'aimerais bien entendre cette histoire sur le fleuve Saint-Laurent.
Ben, on va faire comme une genre de entre guillemets, de parenthèse, hein, mais... Ce qui est arrivé dans le fond, c'est que Cartier était quand même assez sensible à ça, puis assez, je dirais, classique là, dans son approche, dans le sens que il a découvert ce qui va devenir le golfe du Saint-Laurent. Il y a, tu sais, c'est pas encore le fleuve, mais le golfe du Saint-Laurent le 10 août. Fait que lui, il regarde la liste des saints, il voit que le saint le plus important pour lui à ce moment-là, c'est Saint-Laurent. Fait qu'il va nommer, il appelait ça la baie de Saint-Laurent là, à ce moment-là. Puis les topographes vont continuer ça, puis ils vont l'étendre au fleuve aussi. C'est pour ça qu'on a le golfe puis le fleuve. La raison pourquoi je dis que c'est une parenthèse, c'est parce que il y a quelque chose quand même à cette époque-là qu'il faut comprendre, puis tu sais, avec tout le Moyen Âge aussi, c'est que il y a jamais rien qui part de rien. Ouais. Quand que par exemple Cartier va arriver en Gaspésie, à Gaspé plus précisément, la première chose qu'il va faire en découvrant justement un nouveau territoire, ça va être d'ériger une croix. Okay? Il va ériger une croix, puis il va dire que c'est une croix pour le roi, puis c'est une croix pour le Christ, parce que son objectif, c'est de d'amener justement la croix comme, si on veut, comme symbole qui unit le ciel et la terre sur cette nouvelle terre-là pour qu'on puisse commencer une œuvre de cosmisation, si on veut, de ce territoire-là. Dans le sens que avant que le Christ arrive là, c'était, si on veut, une non-terre, un non-lieu, peu importe comment qu'on veut l'appeler. Puis à partir du moment que lui fait cet effort-là, ben là, il y a un lien qui peut se faire avec, on va dire, différents types de principauté, dans ce cas-ci, ben, c'est Dieu avec la croix, mais c'est pas juste unique à lui. T'sais, même que je dirais que les explorateurs de la Nouvelle-France, notamment, c'est dans les derniers à faire ça. Mais partout au Moyen-Âge, c'était comme ça qui fonctionnait. Ils arrivaient sur un nouveau territoire, ils baptisaient avec un saint, une principauté quelconque avec lequel il y avait un lien. Puis à partir de là, ils pouvaient réellement donner vie à ce lieu-là parce qu'ils savaient qu'il allait être protégé, ils savaient qu'il y avait un aspect, si on veut, de filiation avec le ciel, sur la terre, puis ainsi de suite. Puis je voulais mettre cette parenthèse-là parce que d'un certain sens, on pourrait dire que c'est purement un hasard que Jacques Cartier ait choisi Saint-Laurent, dans le sens, ça a juste à donner que c'était le 10 août. T'sais, ça avait été quelques jours avant ou quelques jours après, ça aurait été un autre saint. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments quand même qui sont intéressants. Le premier, comme je viens de dire, c'est juste le fait que il y a quand même quelque chose de symboliquement très fort dans le fait de faire ça, puis on pourrait en parler en long, en large, mais ça a comme pas rapport spécifiquement avec Saint-Laurent. L'autre, par contre, c'est que Saint-Laurent, c'est le saint qui, mettons, si on regarde les gens qui ont écrit la vie de Saint-Laurent, là, il y a deux vies principales dans les premiers siècles, juste après là, sa mort puis sa reconnaissance comme saint, quoi que ce soit. Puis c'est Saint-Ambroise de Milan, puis Prudence, qui était comme, on va dire, son hagiographe principal, quoi que ce soit. Puis les deux, quand ils écrivent leur vie de Saint-Laurent, ils vont de deux chemins complètement différents. Oui, les événements sont à peu près les mêmes, mais ils présentent d'une manière complètement différente. Saint-Ambroise, il va faire des comparatifs beaucoup bibliques pour faire un lien entre Sixte puis Saint-Laurent. Fait que, tu sais, ils vont dire, admettons, il va dire que Élie, c'est comme Sixte, puis Élisée, c'est comme Laurent, puis qu'il va être fidèle à son maître. Puis après ça, Abraham, Isaac est fidèle à Abraham. Après ça, Pierre et Étienne, il y en a un qui est le martyr, proto-martyr pour l'autre, etc. Puis, tandis que quand on regarde du côté de Prudence, bien, il va beaucoup plus parler de Laurent comme étant la nouvelle principauté du point de vue de l'histoire universelle qui vient écraser les principautés d'avant. Fait qu'il va faire des liens avec Romulus, il va faire des liens avec Auguste, il va faire des liens avec plein d'autres héros des Romains. Puis, son objectif final, c'est de dire qu'en fait, le patron de Rome, avec Pierre et Paul, c'est Saint-Laurent. Puis là où est-ce que les deux s'entendent, c'est qu'ils vont dire que Étienne est à Jérusalem, ce que Laurent est à Rome. C'est-à-dire le diacre principal qui meurt pour amener justement la dépaganisation. Puis là où est-ce que je m'en vais avec ça, en fait, c'est que moi, personnellement, quand j'ai commencé à regarder le lien entre les deux, l'espèce symbolique qui m'a le plus frappé, puis tu sais, je pense que ton expression en anglais se porte bien à ça, là, quand tu dis « symbolism happens », tu sais, dans le sens que des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont juste du hasard, mais à quel point est-ce que du hasard peut être, tu sais, aussi bien fait que ça? Tu sais, la colonisation puis la christianisation du Canada, puis là, on va parler du Canada français spécifiquement, mais du Canada en général, c'est passé par le fleuve. Okay. Fait que c'est par Saint-Laurent que tout ça, ça s'est passé au Canada. Mmh. Ou comme c'est par Saint-Laurent que la dépaganisation de Rome s'est passée. C'est par le Saint-Laurent qu'on a installé toutes les colonies principales, qu'on a fait la distribution des biens, puis toute la marchandise principale qui se passait entre l'Europe puis le Canada. Ben, c'est aussi par le fleuve Saint-Laurent, c'est par le fleuve Saint-Laurent qu'on faisait ça, mais c'est aussi le diacre Laurent qui faisait ça aussi à Rome. Où est-ce qu'il distribuait les richesses, ça fait partie de son histoire, ça fait partie de la raison même pourquoi est-ce qu'il a été martyrisé. Tu sais, lui-même, c'est le martyr, on dirait, le plus central, si on veut, de l'Église romaine, parce que c'est lui, justement, qu'on dit qu'il a dépaganisé Rome. Ben, ça tombe bien parce que c'est aussi le fleuve Saint-Laurent qui est littéralement le fleuve le plus important pour le Canada, même pour l'Amérique du Nord en général. Ça devient le centre focal pendant des siècles et des siècles. On oublie des fois que pendant longtemps, le fleuve Saint-Laurent, et puis là, mettons les grandes villes comme Toronto, tout ça qui était autour, c'était le centre économique de l'Amérique du Nord. Pas juste du Canada, c'était même les États-Unis passaient par là, puis etc., etc. Là, il y a tout cet élément-là. Puis, tu sais, on pourrait faire plein de petits parallèles comme ça, mais moi, où est-ce que je trouvais ça très intéressant, c'était que tout comme Saint-Laurent a été la voie d'entrée du christianisme pour Rome, ben le Saint-Laurent est la voie d'entrée aussi pour le Canada, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que toute notre histoire est liée fondamentalement avec ça, puis qu'encore aujourd'hui, toutes les plus grandes villes sont tout le long du fleuve Saint-Laurent. Fait que ça, moi, c'était ça comme, si on veut, la symbolique de base que je voulais jeter aujourd'hui, puis je voulais voir là, c'est quoi que vous en pensez.
Bien, c'est sûr que c'est très intéressant. J'ai essayé de comprendre, par exemple, peut-être tu peux m'aider à comprendre pourquoi, par exemple, c'est Saint-Laurent qui est si important à Rome, puis pas Saint-Sixte. Tu as dit Saint-Sixte, il était martyr avant lui, ou tu n'es pas un autre saint. Là. Qu'est-ce qu'il y avait Saint-Laurent de... Je sais que quand tu vas à Rome, c'est marquant parce que l'église de Saint-Laurent, elle est clairement construite par-dessus les anciennes constructions romaines. C'est pour ça que même, ils ont comme excavé tout par autour, en dessous, par-dessus. Il y a comme juste, je pense qu'il reste juste comme le mur de l'église, puis tout le reste, c'est, ils ont monté toutes les colonnes de l'ancien site païen qui était là. Je sais pas si c'est ça, mais peut-être toi, tu sais pourquoi c'est Saint-Laurent plutôt qu'un autre martyr ou un autre saint.
Bien, je sais que dans les vies qu'on a des pères d'église de cette époque-là, eux, leur raison principale qu'ils disent ça, c'est que c'est carrément à cause de ses prières. Ils disent, c'est à cause des prières de Saint-Laurent qu'on a réussi à dépaganiser Rome. Fait que c'est lui qui est comme le patron avec Pierre et Paul. Tu sais, ils sont mis comme en triable, là, si on veut, là. Pierre, Paul puis Laurent. Tu sais, des fois, on met juste comme Pierre et Paul ensemble. Mais pour les gens, à partir, mettons, justement, du 3e, 4e siècle, les trois vont ensemble.
Oui, c'est ça. Dès qu'ils ont vu avec l'expérience que Saint-Laurent particulièrement priait pour la ville de Rome.
Mm-hmm.
Un truc que j'avais entendu aussi dans comme des vicins que j'avais écouté sur lui, c'était que ça frappait beaucoup les gens comment il restait joyeux puis se moquait des païens. Là, où, il y a deux fois, quand il s'est fait griller, mais aussi quand il a décidé de montrer tous les pauvres à l'empereur, là, comme s'il savait, il se moquait ouvertement de comment le monde jugeait l'Église. Mm-hmm. Ça, c'est sûr que ça fait un impact fort quand même sur les chrétiens persécutés à cette époque-là. Quelqu'un qui reste aussi joyeux pour se moquer du pouvoir impérial païen.
Oui. Bien, il y a définitivement un aspect, on va dire, tu sais, la figure prophétique. Là, la dernière fois, vous avez parlé sûrement de Saint Jean-Baptiste. C'est une des raisons pourquoi Saint Jean-Baptiste a été tué, c'est parce que justement, il se gênait absolument pas d'aller dire au pouvoir c'était quoi les trucs qu'il faisait qui n'étaient pas corrects, quoi que ce soit. C'est un rôle qui est très prophétique. D'un certain sens, c'est Laurent. En tout cas, moi, j'ai toujours associé la question de faire des blagues un peu à l'aspect prophétique. Là. T'sais, Élie faisait la même chose.
Oui, oui.
Les livres prophétiques, quand il parle de Belzébub, pour dire le seigneur des mouches et tout ça, je trouve que c'est comme dans le même lien. Là.
Oui, je pense que ça a du sens, parce que c'est vrai que dans le fond, lui, son exemple, c'est qu'il y a comme aussi évangélisé l'empereur, c'est-à-dire qu'il lui a présenté la vision de l'Église qui est que c'est les que nos trésors, c'est les pauvres, puis que la fonction, une des fonctions de l'Église. Fait que oui, en effet, il semblerait qu'il a agi un peu comme un plus comme un genre de prophète. Là, on ne sait pas, je sais pas si Saint-Sixte, qu'est-ce qu'il a dit à l'empereur, mais c'est clair que Saint-Laurent, il a comme proposé une autre vision là, de c'est quoi la valeur.
Mm-hmm.
Qui a tranquillement transformé tranquillement transformé l'Empire.
C'est vrai. La question du hasard, j'avais aussi un truc à dire, c'est au début, j'étais quand même sceptique, comme je faisais confiance, comme OK, on devrait essayer au moins de faire justement une
histoire. Oui, si on devrait voir, aller faire trouver le parallèle.
J'étais pas sûr que ça allait marcher, honnêtement. Puis, tu sais, en travaillant là-dessus, il y a comme plusieurs parallèles qui me venaient, puis comme des choses que David a sorties. Puis, je pense une des raisons pourquoi ça peut marcher bien pour les lieux les plus importants puis les saints les plus importants, c'est que OK, donc tu prends des saints importants, il y a plusieurs saints à chaque jour là, dans le calendrier, mais disons tu prends le plus important, bien, il y a plus de chances que son histoire soit de portée cosmique. Puis après ça, quand tu arrives dans un nouveau lieu, donc des Européens arrivent en Amérique du Nord, bien, les premières choses qu'ils vont trouver, ça va être des grosses affaires aussi. On va pas commencer par faire l'histoire universelle de comme telle petite ville ou comme tel petit lac. Là, on prend quelque chose de gros comme le fleuve, mais c'est sûr qu'il va se passer plein d'affaires aussi autour du fleuve. Fait que, tu vas avoir des grosses affaires qui vont se passer autour du Saint-Jean puis autour du fleuve. Fait que, tu vas souvent avoir des choses à dire. Fait que, je pense, non seulement il y a comme deux gros lieux à la base, un gros lieu puis une grosse histoire, mais aussi, je pense, l'effet que ça va avoir dans le temps va faire que presque nécessairement, il va finir par avoir de plus en plus de liens.
Oui, c'est ça.
Que, si tu as des catholiques qui connaissent l'histoire de ce saint-là, puis ils disent le nom Saint-Laurent comme à tous les jours, comme ils s'en rappellent, puis ça va faire, ils vont s'en rappeler encore plus quand ils vont faire des choses qui ont rapport à ça. Donc, quand j'écoutais l'histoire de Saint-Laurent, une des premières choses qui me venait en tête tout de suite, c'était les saints martyrs canadiens. Pour les gens qui ne connaissent pas, il y a huit, peut-être pas tous des jésuites, mais huit Saint-Martin canadiens, donc six jésuites, un novice jésuite puis un laïc qui ont été martyrisés parce qu'ils étaient avec des Hurons pour essayer d'évangéliser les Hurons. Il y en a un qui a été tué par un Huron qui est apostat, qui n'était pas content de ça. Et donc, il y a eu lui. Puis sinon, sept qui sont fait capturer par des Iroquois puis qui ont été tués. Puis dans c'était pas des meurtres doux, là, c'était toujours des tortures. Mm-hmm. Donc, un peu des liens avec Saint-Laurent.
Oui, c'est ça.
Il y en a d'ailleurs, il faudrait que je fasse un épisode en est spécifiquement sur les Saint-Martin canadiens, mais c'était souvent très héroïque. Puis tu vois des gens qui se moquaient un petit peu aussi. Là, puis des gens qui ont été... Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui était cuit exactement comme Saint-Laurent, mais disons, des gens qui ont été bouillis, des gens qui se faisaient se couper une main, retourner en France, puis ils revenaient plus tard pour recommencer, puis jusqu'à temps qu'ils se fassent exécuter encore. Fait que, cette idée-là, je pense, du martyr pour aller convertir un lieu, c'est quelque chose qui a joué un rôle important ensuite dans l'histoire du Canada. Puis je pense que c'était... On voit le parallèle maintenant entre l'histoire de Saint-Laurent puis l'histoire des Saint-Martin canadiens puis l'évangélisation du Canada. Puis sûrement que Saint-Laurent a joué un rôle là-dedans. Non seulement, je veux dire, de façon surnaturelle avec les prières puis l'intervention et tout, mais même juste par le fait que son histoire était présente pour tous les catholiques autour de lui. C'est ça.
Oui, il y avait comme une influence invisible. Là. C'est-à-dire Saint-Laurent, c'est une référence. Saint-Laurent, c'est une référence. Saint-Laurent, c'est une référence. Puis à un moment donné aussi, comme tu dis, ça change le comportement ou ça change notre vision de ce qui est bon puis ce qui est possible puis ce qu'on s'attend. Oui, c'est j'avoue que c'est assez intéressant. Moi, je me demande, est-ce que, peut-être c'est trop de nous en demander, là, mais est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé des gens qui, dans le passé, qui mentionnent Saint-Laurent en... relation avec le Québec ou en relation avec le fleuve, tu sais, y a-tu des références explicites, tu sais?
Bonne question.
Ben, les seuls que j'ai pu trouver, c'est sûr, tu sais, bon, j'ai vraiment pas tout lu, là, mais ce que j'ai pu trouver, c'est que dans une des premières fondations, si on veut, de villes puis de paroisses, on dit en dehors des grandes, là, tu sais, comme Québec, Montréal, Trois-Rivières, tu sais, toutes les grandes, c'était des villes, notamment sur l'île d'Orléans. Puis justement, parce que c'était directement au centre du Saint-Laurent, au début, les gens qui avaient fondé la paroisse, il y avait, je pense que c'était une paroisse à Saint-Paul ou quelque chose comme ça. Puis quand ils ont reçu un prêtre ou une affaire même, il a juste dit, non, on est, tu sais, toute notre vie dépend de Saint-Laurent parce qu'on est littéralement sur le Saint-Laurent, comme en tant qu'île et tout. Fait qu'on va dédier notre paroisse à Saint-Laurent. Puis ainsi de suite, t'sais. Fait que, tu sais, j'ai vu des petites mentions comme ça, mais pas nécessairement, mettons, des immenses mentions au niveau là, des cardinals ou des chefs d'État ou quelque chose comme ça.
Hmm. Oui, c'est intéressant. C'est ça. Ça serait intéressant de voir s'il y a aussi, tu sais, par exemple, s'il y aurait une quantité disproportionnée d'églises dédiées à Saint-Laurent au Québec par rapport à d'autres endroits. Là. Ouais, c'est des choses à réfléchir.
Une autre chose que je serais curieux de voir, c'est. Je sais que l'Église du Québec, c'est une église très active. Là. Si on parle de branche contemplation versus action, au Québec, c'est assez actif. Là. Souvent, les communautés monastiques étaient impliquées dans, je sais pas, des écoles, des hôpitaux, etc. C'était pas une église qui était connue pour, disons, des monastères cloîtrés où c'était juste de la contemplation. Là. Puis, c'est le fait qu'un des saints patrons importants, c'est Saint-Laurent qui était un diacre, qui était actif. Je pense que c'est quelque chose qui fait un parallèle aussi encore. Je serais curieux de voir, ça nous donne des endroits, disons, où aller regarder pour essayer de
voir
ce que tu supposes. Là. Ou, aussi dans le fait que c'était l'aide du pape. Là. Puis, pendant longtemps, les Canadiens français se voyaient comme un peuple qui était en lien spécial avec le pape, avec Rome. T'sais, notamment quand la Révolution française s'est passée, puis comme le pont a été coupé avec la France. Puis de l'autre côté, ben, on était comme pris avec une gouvernance anglaise. Mais il y a beaucoup de Canadiens français qui se voyaient comme regardant spécifiquement à Rome, puis voulant aider le pape. Il y a même c'est l'histoire des Zouaves pontificaux, là, où dans les années 1860, je ne me rappelle plus, dans la fin du 19e siècle, là, on a envoyé 500 Canadiens français pour se battre, pour sauver les États pontificaux. Donc, il y avait un lien spécial entre Rome et le Québec.
Mais je me demande, dans ce cas-là, si on pousse, mettons l'analogie plus loin, si on ne pourrait pas dire carrément que le Québec, en fait, c'est Saint-Laurent. Autant au sens que, mettons, au sens, on va dire, d'une analogie, là, que genre, c'est le fleuve Saint-Laurent. Là. Tout le Québec est autour du fleuve Saint-Laurent. Toutes les villes principales sont autour du Saint-Laurent. Mais dans le sens où est-ce que si on est une église d'action qui se considère directement sous l'évêque de Rome, ben, c'est pas mal ça, un diacre. C'est pas mal ça que Saint-Laurent était aussi par rapport à Saint-Sixte. C'est comme si on disait justement... Puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est nous, en Amérique du Nord, le Québec, comment est-ce qu'on va dire, le Canada français, qui a le plus de martyrs d'Amérique du Nord, puis de proportionnellement à notre population. Fait que, tu sais, il y a cet élément-là aussi. Là. J'ai l'impression, en fait, peut-être que le clou de l'aspect symbolique qui nous lie à Saint-Laurent, c'est que il n'y a pas tant de monde que ça qui parle de Saint-Laurent, parce qu'en fait, Saint-Laurent, c'est comme c'est nous. On est comme Saint-Laurent en Amérique du Nord.
C'est intéressant. C'est intéressant parce que je ne sais pas si ça expliquerait aussi pourquoi. Comment je pourrais dire, au Québec, en cause qu'on était si proche de Rome, peut-être, pourquoi qu'on a autant appliqué l'esprit du Concile, tu sais, qu'il y a un lien entre Vatican II puis la Révolution tranquille, peut-être, mais vraiment totalement direct entre les deux, là, entre l'esprit du Concile puis notre Révolution. Le fait que la Révolution s'est aussi faite à partir de l'Église, là, tu sais, au Québec, que c'était de l'intérieur, là, un peu comme... Oui, c'est assez fascinant parce que moi, j'avais jamais pensé à cette idée-là que, dans le fond, après la Révolution française, que le Québec se voyait comme plus proche du Vatican, là, comme un petit genre de province loin. Parce que, tu sais, on est loin, là. On était loin de l'Europe. Tous les grands évêchés, toutes les connexions y étaient coupées, là. C'est vrai que nous, on n'avait pas nécessairement accès, là, aux grandes universités, aux séminaires, tous les trucs qui avaient comme fait l'Europe chrétienne. Nous, on était comme coupés de ça. Fait qu'on était un peu... Ça, on était le diacre de Rome, là. Tu sais, on était vraiment directement connectés.
Non, c'est quand même assez facile. De missionnaires et tout, là. Bon, là, maintenant, c'est plus autant le cas, mais il n'y avait pas aussi une période, soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que le Vatican avait considéré que le Québec, ça allait être justement la terre d'accueil du pape, si jamais...
C'est ça que j'ai entendu. J'ai vu ça plusieurs fois dans mes recherches, que le Québec... En tout cas, il y avait un des plans, c'était... Si Mussolini allait gagner, que possiblement le Québec allait accueillir le Vatican.
Oui, exact, c'est ça. Il y a comme tout ce lien-là, j'ai l'impression aussi, là, à faire. Puis, tu sais, tantôt, on disait, juste pour revenir sur un truc, là, par rapport à ce que tu avançais, justement, plus que c'est grand, puis plus que, tu sais, il va y avoir de portée symbolique. Mais, tu sais, je pense que le principe de hiérarchisation-là, il a fonctionné même pour Rome elle-même, là, dans le sens où est-ce que, tu sais, comme Jonathan disait tantôt, quand Saint-Laurent il a essayé d'évangéliser directement à l'empereur, sur le coup, ça n'a pas eu nécessairement de fruit ou quoi que ce soit, mais ça marque quand même l'esprit parce que moins d'un siècle plus tard, c'est l'empereur Constantin qui va bâtir justement l'église de Saint-Laurent puis qui va, mm-hmm. va la rénover, puis etc., etc. Fait que lui-même, par les efforts, si on veut, de des personnes comme Saint-Laurent, lui-même se fait convertir en tant qu'empereur plus tard. Puis mm-hmm. il redonne justement à Saint-Laurent à propos de ça.
Dans l'idée de parler aussi au... de parler à l'empereur, il y a un parallèle qu'on avait fait aussi avec Saint-Jean-Baptiste, mais c'était assez populaire, disons, dans le comme sommet, disons, du catholicisme au Canada français, de voir les Canadiens français comme ayant justement le rôle de prophète catholique en Amérique du Nord protestante. Fait que d'être comme le petit peuple comme tout seul face aux protestants, puis avoir l'idée que, OK, on va juste essayer de rayonner avec ce catholicisme-là, puis ça va comme faire son propre travail. C'est un lien qu'on a fait avec Saint-Jean-Baptiste, mais qu'on peut faire avec d'autres figures prophétiques comme Saint-Laurent.
Puis je pourrais définitivement voir un Québécois qui se ferait griller par torture, qui dirait une niaiserie un peu comme Saint-Laurent dit à l'empereur. Moi, je verrais un Québécois.
Tu vois que, dans le fond, ce que tu vois, c'est que toute notre industrie de l'humour au Québec est due à Saint-Laurent, finalement. notre machine à humour, là, tu sais, notre usine à produire des stand-up des humoristes. Là.
Ben, c'est, d'un certain sens, on pourrait dire ultimement que c'est une mauvaise utilisation justement de l'humour. Tu sais. Je pense que l'utilisation que Saint-Laurent en a faite était excellente, là. Mais,
oui, c'est ça.
Mais ouais.
Oui, mais c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans la culture québécoise, comme quoi, d'une certaine façon, on est à la fois des moutons, t'sais. On est à la fois vraiment un peuple, là, un petit peuple qui bouge ensemble, qui suit, mais en même temps, on est aussi irrévérent, là, t'sais. On est aussi, il y a un côté des Québécois qui est un petit peu, t'sais, on en voit un peu promener l'autorité, puis t'sais, on s'en moque un petit peu en même temps. C'est étrange, comme j'ai l'impression que c'est peut-être aussi la caractéristique des paysans en général, là, la caractéristique du peuple en général, c'était d'avoir ça. C'est d'un côté d'être soumis à l'autorité, mais en même temps, des fois, d'être comme « OK, c'est bon, là, on va faire notre truc, puis on s'en fout de vous. »
mm-hmm. Mais c'est drôle parce que dans Saint-Laurent, sa vie n'est pas immense, ce qu'on a là, de lui, pour soi, mais il y a trois moments où est-ce qu'il fait ça. On en a mentionné deux tantôt, celle où est-ce qu'il amène les pauvres et tout ça pour les richesses, l'autre où est-ce qu'il est sur le grill. Mais dans les vies de Saint, la manière que Sixte répond à Saint-Laurent, c'est pas mal sous-entendu que la manière que Saint-Laurent il demande à Sixte, c'est qu'il s'est plaint à Sixte. C'est pas juste comme une espèce de poème, genre « Ah, oh, pourquoi est-ce que je peux pas venir avec toi ou quoi que ce soit? » Tu sais, faut quasiment l'imaginer comme si arrivé, puis il disait « Mais non, tu peux pas partir sans moi, là. Il faut que je sois martyrisé avec toi. »
Oui.
Ouais, puis, tu sais, parce que même dans la réponse, admettons que Saint-Ambroise, il donne de Saint-Sixte, il dit que Saint-Sixte répond carrément à Saint-Laurent, « Arrête de pleurnicher. »
Ah comme, oui, OK.
Arrête de nier, tu sais, arrête. OK. T'sais, dans le peu qu'on a de lui, il y a comme trois endroits où est-ce qu'il y a cette espèce d'irrévérence-là, mais en même temps, c'est une irrévérence quasiment sacrée.
T'sais, comme... C'est ça, c'est une irrévérence qui est soumise à une autorité plus élevée, t'sais, en même temps. Ouais,
pour
ça.
Des bonnes raisons aussi, t'sais, dans ce cas-ci. Ouais, ouais. Comme parce qu'il veut accéder à son martyr. Après ça, c'est parce qu'il veut montrer à l'empereur c'est quoi la vraie richesse du Christ. Puis après ça, parce que c'est...
Il veut montrer la puissance de Dieu, je pense. Ouais, l'idée dans la torture, c'est en voulant dire que c'est pas... Tu sais, que tu peux pas dominer mon corps. Tu peux pas me dominer. Oui, c'est vrai. Hein, non, c'est intéressant. Plus que je vois... Toi, moi, j'avais pas catché... J'avais pas attrapé les trois fois... mais la première... Les trois fois où il agit avec ce genre d'irrévérence. C'est certain. D'abord, c'est difficile de pas penser que ça l'a teinté... la culture québécoise et son irrévérence aussi.
C'est pas nécessairement teinté... comme dans le sens où est-ce que les gens ils ont plus lu, mettons, sa vie, puis qui ont
pensé, mais juste de baigner dedans.
Parce que, tu sais, si c'est la principauté qui est, on va dire, assise sur le fleuve Saint-Laurent, puis le fleuve Saint-Laurent, c'est le Canada, ben, en tout cas, à cette époque-là, mettons, à l'époque de la colonisation, tu sais, Ben, c'est sûr qu'il va avoir une influence sur les gens, puis sur la manière qu'ils font, puis la manière qu'ils s'organisent, puis qu'ils agissent dans le monde, puis tout ça. Puis il y a un autre parallèle aussi qu'on on a juste réfléchi à ça comme littéralement 30 secondes avant qu'on commence. Fait qu'on n'a pas été poussé plus, hein, mais c'était quoi justement les principautés pour les Amérindiens qui avaient le contrôle sur le Saint-Laurent? Tu sais, dans le sens, Saint-Laurent, il a remplacé quoi exactement au Canada?
Ben, on sait pas.
Et je pense que là aussi, on pourrait potentiellement avoir d'autres indices ou d'autres éléments intéressants par rapport à ça.
C'est sûr qu'en général, je me rappelle de donc quand d'avoir lu Champlain qui parle des Amérindiens, puis c'est quoi leur système de croyance. Là, puis c'est très classique, mais une des choses auxquelles ils croyaient, c'était le diable. Là, les choses n'allaient pas bien. Je me rappelle pas qu'il y avait disons, un système de principauté très élaboré. Là. C'était comme les gens faisaient les prières qui étaient juste à leurs yeux. Puis quand il y a des gens qui avaient des visions, des songes, ben, ils écoutaient beaucoup, mais il n'y avait pas de système très hiérarchique, au moins pour cette partie-ci de l'Amérique du Nord, là, comme les Hurons, les Montagnais, etc. Il n'y avait pas de gros système de croyance, mais définitivement, ils croyaient au diable. Pour toutes les choses.
Donc... Avant que les chrétiens arrivent, il y avait comme l'idée d'un esprit maléfique.
Ouais. Il y avait ça. Puis au minimum, tu sais, quand tu viens cosmiser avec le Christ et des principautés chrétiennes en général, ben, tu vas tasser ça, progresser. Oui. Au minimum, c'est sûr qu'il y avait ça. Mais je serais curieux de voir les légendes, les histoires ou les songes que des gens avaient autour du fleuve Saint-Laurent. Il y a sûrement quelque chose à faire là aussi.
Mais oui. Puis c'est sûr que tu sais aussi l'idée, d'une certaine façon, l'idée que c'est en mourant que tu transformes la principauté. Là. T'sais, l'idée que les martyrs canadiens, ils se sont sacrifiés, ils sont morts, puis c'est par leur sacrifice puis leur mort que tu sais, le sang des martyrs et la semence de l'Église, là, tu sais, qu'en fait, la transformation de l'ordre naturel, il se faisait secrètement là, par la mort des martyrs.
Ouais. C'est pas arrivé tout de suite d'ailleurs. Là, il y a eu les Saint-Marceaux canadiens peu de temps après Champlain. Puis après, ça a été en 100 ou 200 ans peut-être, là, avant que le catholicisme atteigne son sommet au Canada. Ouais. Il y avait beaucoup de gens, notamment au début, qui étaient là pour aussi juste comme la commerce des fourrures, des chasseurs des bois, puis tout. Il y avait aussi des saints qui venaient fonder des monastères, des écoles, etc. Mais il y avait, c'était pas le sommet de la pratique religieuse qu'on a connu fin des années 1800. Ça a été après les Saint-Marceaux que tu as fini par voir ça. Puis, tantôt, tu avais parlé un peu de la Révolution tranquille, Jonathan, puis je me demandais si on pouvait pas voir aussi un petit peu dans les mauvais... les mauvais plis que l'Église catholique au Québec avait, puis comment ça amenait la Révolution tranquille dans comme des choses que Saint-Laurent faisait puis qu'on n'a pas réussi à garder. Parce que c'est un des gros facteurs dans la Révolution tranquille, c'était que les Québécois voulaient avoir un bon système de soins de santé, d'école, etc. Donc, des œuvres actives, tu sais, qu'ils voulaient...
Les œuvres de diacre, là, oui, c'est ça. Un diaconat, dans le fond.
Puis c'était vraiment bien attaché à l'Église pendant longtemps. Puis là, je vais continuer à travailler la Révolution tranquille puis à reparler à des gens et tout, mais c'est assez reconnu qu'au moins dans les années 1840 à 1870, avec Monseigneur Bourget de Montréal, ça allait très bien. C'était comme l'inspiration en premier puis le temporel en deuxième, mais comme l'Église du Québec puis la société québécoise, en général, s'épanouissait beaucoup dans ces années-là. La hiérarchie était bonne. Mais après, il y a une question de... On peut débattre à partir de quand ça a commencé à plus marcher, mais ce qui est clair, c'est que rendu dans les années 1960, beaucoup de Québécois voyaient que pour avoir notre bon système de santé, puis système d'éducation, etc., ce qu'il fallait faire, c'était adopter le système américain essentiellement, puis abandonner l'Église catholique qui était rendue un frein au bon fonctionnement d'une société démocratique avec les sciences avant la philosophie au secondaire, puis etc. Chose qu'on peut voir aussi. Donc, on venait d'où, puis quel biais on a naturellement pris pour éventuellement se déchristianiser?
Oui, mais c'est intéressant parce que quand on a fait l'entrevue avec Francis Denis, oui, c'est ça, c'était un peu ça qu'il présentait lui comme théorie, c'est que une des aspects de la Révolution tranquille, c'était un peu la révolution du diacre, là, c'était l'idée de vouloir miser tout sur un système social, puis de vouloir mettre ça un peu comme le nouveau Dieu. Là. Fait que c'est ça, c'est intéressant, l'irrévérence, dans le fond, mal placée, là, où l'irrévérence dans la mauvaise direction devient comme un peu révolutionnaire là, quand c'est mal géré.
Ben, c'est comme s'il y avait manqué justement un sixte pour dire à cette révolution diagonale-là, c'est l'évêque en premier, puis après ça, le diacre va pouvoir passer. T'sais. Donc, c'est comme s'il avait manqué ce penchant-là pour venir contrebalancer puis hiérarchiser, au fond.
Ben c'est vraiment très fascinant. Mais là, l'affaire d'Hippolyte, il va falloir que vous me disiez comment vous voyez
c'est,
ça.
C'était plus pour une joke ou quoi que ce soit, mais c'est juste Saint-Laurent. pour ceux qui le savent, en tout cas, à Montréal, il y a un tunnel qui s'appelle Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis j'ai fait des recherches, je ne peux pas prouver qu'il avait reçu son nom Hippolyte à cause de ce Hippolyte ou quoi que ce soit. Mais quand même, on a un Hippolyte qui est en dessous, justement, de Saint-Laurent ou quoi que ce soit. Puis c'est la même chose dans la vraie vie aussi. Tu sais, Hippolyte a enterré Saint-Laurent, puis il est mort à cause de lui. Puis si je me souviens bien, il était enterré pas trop loin l'un à côté de l'autre, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, même là, il est comme... En tout cas, je lance ça comme ça.
C'est drôle, mais ça marche. Dans le droit de faire un peu des blagues avec Saint-Laurent. Il en a fait, là. Ça, c'est rigolo. Ben, c'est vraiment intéressant à penser à tout ça. Là. T'sais, je pense que ça va être intéressant de continuer puis de se faire un peu une genre de carte de saints puis de voir aussi les saints qui étaient importants dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire canadien. T'sais, moi, c'est drôle parce que moi, j'ai une petite médaille de Saint-Christophe que je traîne partout. Quelqu'un nous avait donné ça il y a longtemps, puis c'est une médaille catholique. Puis là, derrière, il y a les saints canadiens. T'sais. Puis j'ai aucune idée c'est qui ces gens-là. Il y a juste, il y a plein de gens debout. Je connais pas leur histoire, je connais absolument rien sur eux parce qu'il n'y a jamais personne qui nous a raconté l'histoire des saints martyrs canadiens. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait aussi être une direction qu'on peut aller pour découvrir un peu la part spirituelle de notre histoire.
Non, c'est sûr que je vais me rendre au Saint-Martin canadien. Ils sont très impressionnants. J'ai envie de faire une histoire de plusieurs saints, partir même du début de l'Europe. Là, moi et David, on a commencé à travailler sur Saint-Martin. Puis, on veut comme passer des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, là, en passant par les Saint-Martin canadiens. Fait qu'on va continuer d'explorer ça. Mais j'étais content que sur Saint-Laurent, il y ait des choses intéressantes à dire. Pour comme je disais au début, j'étais un peu nerveux. J'étais
pas sûr. Oui, parce que tu dis, c'est juste la date. Ça m'aide à comprendre probablement que c'est ça qui est arrivé pour presque tout. C'est-à-dire que probablement que quand il y a un village qui s'appelle, comme moi, Sainte-Marthe, dans le fond, c'est-à-dire il fallait qu'ils nomment le village, ils regardent sur le calendrier, ils regardent qui les saints, puis là, ils disent « Ah, ben celle-là, tu sais, ils choisissent un saint. » Fait que mais c'est bon parce que ça m'aide. Parce que moi, je veux toujours demander, comment ils faisaient, tu sais, tous les villages, partout, tout est nommé d'après des saints. Je me disais, tu sais, il y avait-tu comme une genre de loterie de saints, ou tu sais, il y avait un truc qui tournait, qui sortait des noms. Je me dis, ou tu sais, est-ce qu'il y avait toujours des miracles, il y avait tous des trucs, tu sais, hyper sensés, mais j'ai l'impression que c'est plus le calendrier.
Ouais, souvent, je sais aussi, une autre chose qui se faisait, ça pouvait être nommé sur les saints patrons de personnes.
Ouais, exact.
Qui étaient impliquées, c'est-à-dire si quelqu'un était là, genre une personne qui allait nommer ou, je sais pas, la personne importante dans cet endroit-là qui fallait qu'il nomme, il nommait en l'honneur de son saint patron.
Ou sa femme, ou des choses comme ça.
Mais c'est juste
une île Sainte-Hélène pour sa femme, mettons. Ce genre de choses-là arrivait aussi.
Ah oui, c'est ça. Oui, non, ça a du sens aussi parce que, tu sais, c'est le genre de truc qu'on fait encore aujourd'hui, tu sais, où on peut, de façon honorifique pour nommer quelque chose au nom de quelqu'un, parce que c'est un peu gênant, disons, dans le monde religieux, de nommer. Tu sais, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le dédier au saint patron de la personne. C'est comme une sorte d'honneur réfracté un peu là, devant la personne.
Oui, ouais, c'est un bon point.
Ouais, c'est super intéressant. Ben écoute, moi, je pense qu'on a fait quand même le tour de tout ça. Puis, surprenant aussi, moi, j'ai appris plein de choses intéressantes. Puis, j'ai bien hâte de continuer notre série là, sur les ces petites surprises d'histoire universelle dans l'histoire du Québec. Là.
Parfait. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Jonathan. Merci surtout, David, pour toute la recherche.
Oui.
Puis on se reverra la prochaine fois. Merci tout le monde. Bye-bye.